présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les 55 ans, elle est rousse, habillée d'un manteau de fourrure marron, et habite le premier étage. J'ai dit, personne n'a fait l'allée ce matin. J'ai mis moi-même les poubelles. Madame Grandjean lui dit, hier le concierge a laissé à l'abandon l'immeuble, pas d'électricité, plus d'alarme ni de caméra. C'est une honte. Et il n'est pas là aujourd'hui. Je vais téléphoner à la régie. Ils vont m'entendre, ces gens-là. On paye tout de même. L'autre lui dit, vous avez raison. Il faut faire une pétition. Allez, je vous quitte. Je dois aller chercher ma fille qui revient de Bretagne. Elle a pris l'avion. Dame Grandjean lui dit, bien, moi je vais téléphoner à la régie. Et elle remonte chez elle. Elle remonte chez elle. Prend l'ascenseur. Ah, là là. Sonne à la porte. C'est la bonne qui lui a ouverte. Elle lui dit, je vais téléphoner ma fille. Bien madame. Elle entre. Elle va au bureau de son mari pour téléphoner. Prends l'appareil, fais le numéro. Allô, je suis chez Verzier. Bonjour, je suis Madame Grandjean de l'immeuble Place des Vosges. Je vous téléphone pour vous dire que le gardien est encore absent ce matin. Personne. Ah, bien. Ah, il doit être chez lui. Bien, je vais voir. Merci. Elle se dit, il ne se déplace même pas. C'est moi qui dois aller voir s'il est présent. Sort du bureau. Et voilà Bod. Elle lui dit, allez voir le concierge et voyez s'il est là. Bien, madame. Porte du concierge. Pas de réponse. Pas de réponse. Mais arrive le concierge. Il demande, que se passe-t-il? Elle lui dit, Madame Grandjean, vous voulez savoir si vous étiez là? Il lui dit, je suis parti quelques jours, mais j'ai dit à ma fille de rester et de prendre ma place. La bonne lui dit, eh bien, votre fille n'a rien fait du tout. Les gens sont furieux. Hier, il y a eu une panne d'électricité et mes maîtres ont été cambriolés. Le concierge est surpris. Il lui dit, je vais voir. Il ouvre l'appartement qui est une loge. Entrez. Chérie, tu es là? Chérie, tu es là? Pas de réponse. Chérie. Oh! Et il trouve dans la baignoire sa fille, morte, dans un bain de sang. Mon Dieu! La bonne fête. Oh! Quelle horreur! Le visage de la fille, grimaçant, les yeux qui sortent de la tête, la bouche horrifiée, du sang sur la tête, nue, ne pleure et dit oh, « Ma chérie! Ma chérie !» Il se penche, la bonne le retient et lui dit « Ne touche à rien! Au secours! Au secours! Au secours! Au mort! Morte. Elle heurte avec son pied une brosse tachée de sang. Oh, au secours! Au secours! Le père pleure. Des gens accourent. Ils entourent la bonne et le concierge. La bonne évite que le concierge touche sa fille. Un petit homme, à cheveux gris, costume gris, accourt et dit « Il a tué sa fille! Vite, la police !» On entoure la bonne. On entoure l'homme. La bonne ne sait plus. Une sirène de police. Les policiers entrent dans la salle de bain. L'homme dit, il a tué. Cet homme a tué sa fille. La police entoure l'homme et font sortir les gens. Il amène dans un coin tranquille l'homme et la bonne. Le policier demande ce qui s'est passé. La bonne leur explique. Le père reste étourdi. La foule est évacuée du logement. Est évacuée du logement. L'on prend des photos dans la salle de bain. On sort le corps de la fille. On amène le père et la bonne au commissariat. Le commissaire qui les reçoit est le même que celui qui s'est occupé de François. Les interrogatoires, il se dit que ces deux affaires sont la même. Après que la bonne et le père ont déposé, il leur dit « Parlez à personne de cette affaire et rentrez chez vous. L'enquête va continuer. » Une fois qu'il se sortit, il se dit, en plus du vol, maintenant, il y a un crime. Merde! Que faire? Attendre les résultats de l'enquête. La police a fouillé l'appartement, a trouvé le lit du père défait, pris des empreintes, des taches de sang, d'ADN. On a examiné le corps. La fille est morte, assassinée et noyée dans son eau de bain. Après un rapport sexuel, son premier. Elle n'a pas été violée. Il n'y a pas eu de vol. Après l'enquête de l'appartement, le père a pu rentrer chez lui. La bonne est rentrée chez sa maîtresse et lui a raconté la découverte du crime et tout. Sa maîtresse lui a dit
que chez les gens du peuple, que l'on trouve des choses pareilles, c'est du roman feuilleton.
Lorsqu'elle dit à son mari, durant le dîner, ce qui s'est passé, et sans rien omettre de la chose, tout en mangeant du chevreuil, elle lui dit,
il paraît que la fille avait la tête défigurée, les yeux qui lui sortaient de la tête, la bouche ouverte et grimaçante, du sang partout, lui dit dégoûté. Je n'ai plus faim.
Il réfléchit.
C'est peut-être les voleurs qui ont tué la fille pour lui voler les clés de chez moi et le tableau électrique.
Elle lui fait « Sûrement pas. Il était très brave, ce jeune homme. »
Il lui dit « Tu es folle. Ils avaient la clé de notre appartement. C'est bien qu'ils l'ont prise chez le concierge, alors. »
Elle lui fait « C'est toi qui es fou. Un si gentil garçon. Si triste. »
Il hausse ses épaules. Le commissaire a les résultats des analyses, le rapport de police. Il regarde sur l'ordinateur
avec les questions. Et regarde. Pour voir si les deux voleurs sont les criminels. En tapant, comparant l'ADN, le sang et les empreintes, ils voient que Laurent n'y est pour rien. Mais que tout concorde avec François. Il se dit, merde, j'aurais mieux aimé que ce soit l'autre. C'est lui le criminel. Que faire? Si je l'arrête pour crime, la Judith va me tomber dessus. Et le ministre de la Justice aussi. Alors que faire? Il décide de prévenir ses supérieurs. La nouvelle arrive au bureau du ministre de la Justice par l'intermédiaire du préfet de police. Je lui dis, vous m'apportez que de mauvaises nouvelles, vous. Vous y faites exprès. Le préfet lui dit, je suis pour rien. Le ministre lui dit, ma fille risque d'être dans une affaire de meurtre, je risque de sauter. Scandale. Le ministre qui trafique avec la pègre, etc. Il faut étouffer cette histoire. Les analyses doivent être envelées. Le Laurent, mettez-le dans une cellule avec un violent qu'on trouve mort le plus vite possible. Vous donnerez une prime aux détenus pour qu'ils le suppriment. Pour ce qui est de ce François, vous lui faites un passeport et lui dites de disparaître le plus vite possible et qu'on ne veut plus ici. Bien, monsieur le ministre, et faites vite. Quant à Grandjean, vous lui direz que son assurance remboursera les frais. Tout ça, et que toutes ces choses doivent être oubliées. Il ne faut pas qu'un associé de Franblanc ait une histoire à fait divers. Cela fait mauvais effet. Qu'il faut oublier tout ça pour la Franblanc. Grandjean est invité chez le préfet de police. Il explique tout. Il accepte car il a peur de perdre des contrats avec la Franblanc. Il reçoit une somme de son assurance et tout rentre dans l'ordre. Le commissaire a convoqué le pauvre père et lui a dit que l'on avait retrouvé l'assassin de sa fille, mais qu'il s'était pendu dans sa cellule pris de remords. Il a reçu une bonne prime, un bon logement dans une autre résidence. Le commissaire va voir Paul, qu'il reçoit dans son salon avec François. Le commissaire lui dit, vu toutes les accusations qu'a votre ami et les relations qu'il a pour éviter le scandale et une crise ministérielle et industrielle, nous avons décidé, c'est qu'il quitte de suite le seul Français et se fasse oublier. Le commissaire lui donne un passeport. Voilà, un passeport. Il parte le plus vite possible. S'il ne part pas, nous le saurons. Au revoir, monsieur. Et il le quitte. Paul est effondré. Son mari va le quitter. Sans doute pour toujours. Il quitte le salon. Il va voir François qui est dans sa chambre. Frappe à la
entrer.
Paul entre. François est allongé. Il va vers lui.
Et lui dit, t'en fais des bonnes, toi.
Il a donné une gifle.
François surpris lui demande, qu'est-ce que j'ai fait?
Paul lui dit, tu as tué une fille, non?
François rougit et lui dit, oh, j'ai pas fait exprès, c'est Laurent qui m'a forcé.
Paul lui dit, ne dis pas ça. On n'est jamais forcé de tuer quelqu'un.
J'ai mal. J'ai mal.
Très déçu par toi.
J'aurais jamais cru que tu fasses ça.
François lui dit, je suis navré.
Paul lui lance le passeport et lui dit, tu quittes la France le plus vite possible et pour éviter le scandale.
Et il sort de la chambre.
Franck, effondré, soupire. Il a jeté le passeport à terre et crie, je ne pars pas.
La porte s'ouvre.
Paul accourt à lui et lui dit, si tu ne pars pas, on va te prendre pour t'éliminer, pour t'empêcher que tu dises des choses, pour éviter le scandale. Alors, t'es trop loin, qu'est-ce que tu veux?
François lui dit, alors, tu veux que je parte?
Paul lui dit, on ne peut pas faire autrement.
Tu risques ta vie. Ils surveillent pour voir si tu pars.
T'as fait de grosses bêtises. Tu as perdu. Tu dois payer.
François se lève et lui dit, c'est pas moi. C'est Laurent.
Paul lui dit, tu aurais dû me parler de tout ça. Et ton Laurent, j'aurais envoyé promener.
François lui dit, qu'est-ce que je vais faire tout seul?
Paul lui dit, tu continueras à vivre comme tu l'as déjà fait.
François lui dit, oui, mais c'était avant de te connaître.
Paul est ému et lui demande, qu'est-ce que ça veut dire?
François lui dit, j'ai pris l'habitude de vivre avec toi et que tu t'occupes de moi.
Paul soupire et lui dit, peut-être bien, mais ça ne t'a pas empêché de faire des bêtises sans m'en parler.
François lui dit, tu parles?
Paul lui dit, c'est un crime tout de même.
François lui dit, tu parles, un crime de rien du tout. Il y a tellement de gens qui meurent dans le monde, ça ne se voit même pas.
Paul lui dit, c'est terrible ce que tu dis là. Et si le sort d'une personne ne vaut rien du tout, alors la mienne?
François lui dit, mais toi, c'est pas la même chose. Je te connais. Et puis toi, tu n'es pas comme les autres.
Paul lui dit, je te remercie, mais pour les autres, il ne faut plus faire ce que tu as fait avec la fille. Tu comprends? Cette fille que tu as tuée, elle était pour ceux qui l'aimaient, pas comme les autres. Non. Nous sommes tous, comme tout le monde, et en même temps, des êtres uniques. Tu comprends? Moi,
mon voisin, je ne le connais pas. Il fait partie des autres, mais ceux qui le connaissent, c'est une personne à part. Et pour tout mon voisin, toi, tu fais partie des autres, tu comprends? Oui. Toi, je t'aime parce que c'est toi et rien d'autre. Mais pour mon voisin, tu n'es qu'une personne parmi d'autres. Voilà.
Pendant ce temps, chez les Beauregard, le père et la mère sont assis au salon. Le père dit à sa femme:
j'ai réfléchi. Il faut éloigner notre fille pour éviter les pleurs et les questions embarrassantes. Voilà, nous allons lui dire que sa tante, qui habite l'Australie, est tombée malade et que tu dois y aller avec elle parce qu'elle vous demande.
Elle lui dit: tu crois qu'elle va accepter?
Nous dirons que sa tante veut lui offrir des bijoux de famille et des actions qu'elle a de francs blancs et que ça lui servira pour plus tard si elle veut se marier.
Durant le dîner, la mère dit:
j'ai reçu des nouvelles de tante Marie.
Le père fait: ah, elle va bien au milieu de ses kangourous.
La femme lui dit:
pourtant, elle a eu deux attaques. Les médecins sont inquiets. Elle aimerait que j'aille la voir avec toi, Christelle. Elle tient à te voir, Christelle lui dit. Mais moi, je n'ai rien à lui dire à cette femme.
Sa mère lui dit:
c'est ta tante, elle t'a toujours aimé, la pauvre. Elle veut que tu viennes la voir, parce qu'elle veut te faire deux beaux cadeaux, des bijoux de famille et des actions qu'elle a eues de la Franc-Blanc.
Elle lui dit:
pour plus tard, si tu veux te mettre chez toi, ça peut être utile.
Le père lui dit: alors, pour les vacances de Pâques, tu iras avec ta mère là-bas.
Christelle lui dit: et si j'avais autre chose à faire, moi?
Mon père lui dit: l'important, c'est d'aller voir une parente mourante. Alors tu iras.
Elle lui dit: et François?
Il lui dit: quoi, François?
Elle lui dit: oui, François. Sa mère lui dit: tu le reverras à ton retour.
Le père se dit: ça m'étonnerait.
Pendant le dîner, François demande à Paul: est-ce que ça te fait quelque chose que je parte?
Paul lui dit: si, bien sûr. Mais que veux-tu que j'y fasse? Nous reverrons sûrement. Tu me diras où tu iras et j'irai te voir. Et où veux-tu aller?
François lui dit:
je ne le sais, peut-être en Amérique, si j'en ai les moyens.
Paul lui dit: je t'offre le voyage.
François lui dit: ça va être dur de quitter la France, qu'est-ce que je vais faire là-bas?
Paul lui dit:
tu peux aller ailleurs.
Où? En Suisse. Tu me vois en Suisse, au milieu des montagnes?
Si au moins il y avait quelqu'un que je connaisse.
Paul lui dit: ne fais pas de soucis, tu m'écriras si tu as besoin de quelque chose.
lendemain après-midi, François chez Paul. Le téléphone sonne. Paul est sorti. Il décroche.
Allô? C'est moi, Christelle.
Il ne pensait plus à elle.
Et puis au fait, c'est de sa faute tout ça.
Il lui dit, qu'est-ce que tu veux?
Elle lui dit, j'aimerais qu'on se voie.
Il lui dit,
j'ai pas le temps.
Elle lui fait,
mais moi non plus.
Qu'est-ce que tu veux me dire?
Elle lui dit, une chose très importante.
Il lui fait,
si c'est pour le départ, je ne peux pas.
Elle lui fait vexer et très attristé.
Pourquoi?
Il lui dit, parce que je ne peux plus, c'est impossible.
Elle lui dit, tu ne m'aimes plus?
Il lui dit, ça n'a rien à voir, je ne peux pas, et puis voilà tout.
Moi aussi je peux avoir des ennuis, non?
Elle lui fait, bon, et moi aussi?
Il lui dit, bon, je te quitte.
J'ai affaire. Il raccroche. Elle est vexée et se dit,
il ne m'aime pas,
ça lui fait mal. Elle veut en avoir le corps net. Elle décide, c'est d'aller le voir. Elle s'apprête à sortir de l'appartement. Sa mère apparaît et lui demande, où vas-tu? Elle lui dit, je vois François.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.